Time 2021. Swing Time sur Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges. Swing Time, préparé et présenté aujourd'hui par Alain Charbonnier. Et à nos côtés, il y a Dominique Gouguet.
Bonjour Martine.
Bonjour, on est content de te retrouver.
Ah, bonjour Dominique.
Oui. Salut Alain.
Il y a du soleil, on est content de le voir. Alors la parole est d'abord à Alain.
Eh bien, je vais présenter l'orchestre de papa, le grand orchestre de papa.
Faza ?
Le Faza, voilà. Je traduis le big band de Faza. Voilà. Alors, on se demande bien sûr pourquoi je vais présenter aujourd'hui l'orchestre de mon père.
Alors, pourquoi ?
Ah oui, pourquoi ? Que j'appelle Faza.
C'est ton papa ?
Américain, c'est mon papa, voilà. Alors, je vais donner une petite explication liminaire. Je vais consacrer l'émission du jour au grand orchestre d'Earl Hines. C'est Earl Hines, Faza, tout simplement.
Je m'en doutais
voilà,
un peu.
Voilà, un petit peu, j'espère. Et puis, on va l'écouter dans ses meilleures années. Et donc, on va écouter Papa, Fazer, Faza. C'est ça, ma petite facétie. Je pense que ça explique tout et ça rassure les auditeurs. Parce que le grand orchestre de papa, je ne connais pas non plus. Il n'en a pas eu le mien. Faza, il en a eu. Et donc, on va bien écouter aujourd'hui du jazz, du swing, qui seront au cœur de nos préoccupations dans cette émission Swing Time. Alors la période que j'ai choisie dans ce Big Band de Faza, c'est celle qui va de 1932 à 1940. Earl Hines avait fondé un Big Band qui était remarquable, qui comportait de très bons musiciens, de très grands solistes, d'excellents arrangeurs. Qui plus est, lui, c'était très vite un des meilleurs pianistes de jazz, tant par son jeu que par son inspiration. On va donc nous attacher aujourd'hui à jeter notre regard et nos oreilles, évidemment, sur une époque faste de l'orchestre de Faza, de papa. Et pour commencer, j'ai choisi la toute première séance d'enregistrement de l'orchestre Faza Hines en 1932. Et j'ai retenu le deuxième titre mis sur cire ce jour-là, c'est-à-dire le 14 juillet 1932. C'est aux États-Unis, c'est un peu moins d'importance évidemment qu'en France. On est à New York, on est chez Brunswick et le morceau s'intitule « Oh, you sweet thing ». Thank you. la manière de jouer du piano d'Orline, c'était déjà caractéristique. Il a 29 ans, mais il était déjà connu, il avait eu du succès. Il avait enregistré notamment quelques années auparavant, en 1928, avec Louis Armstrong. Donc son style était déjà affirmé. Et on va le reconnaître très très facilement dans tous les morceaux qui vont suivre et dans d'autres morceaux. On le reconnaît bien.
Oui.
Et ce n'est pas Alain Réjou, notre président, qui va me démentir, parce qu'il adore Orline. Il le retrouve dès les premières mesures. Dominique, c'est bien,
bien ce qui Alain, se passe. Alain, grand spécialiste.
Oui. Voilà, il adore. Donc, on va lui dédier l'émission, d'ailleurs, à Alain. Comme ça, il sera très content, doublement content. Orline et une dédicace, il a tout aujourd'hui. Comme soliste, on a pu apprécier George Dixon à la trompette. Alors, il y a un autre grand trompettiste soliste qu'on entendra plus tard, mais on va bien les différencier. George Dixon, c'est lui, on l'a entendu, on l'a dans son oreille. À l'alto, c'était lui qui, en général, prenait les solos d'alto. C'était Homer Siméon, qu'on connaît aussi comme clarinettiste. Au trombone, je suppose, je ne suis pas absolument sûr que c'est Louis Taylor. Si je me suis trompé, quelqu'un me le dira. Sinon, jusque-là, jusqu'à preuve du contraire, c'est Louis Taylor. Le contrebassiste était fameux. C'est aussi un grand arrangeur. C'est Quinn Wilson. Et il jouait avec du slapping bass. Il fait claquer la corde de sa contrebasse sur le manche. Il joue un peu à la façon des contrebassistes de la Nouvelle-Orléans, genre Paul Foster. On retrouve ce style-là. On va passer à l'année 1933 et on va écouter deux grands succès de l'orchestre d'Orline, de styles d'ailleurs très différents, qui sont deux compositions d'Orline. Et la seconde de ces compositions a été arrangée par le grand arrangeur Jimmy Mundy, qui tenait aussi le saxophone dans l'orchestre. Premier morceau, c'est un classique, c'est Rosetta, enregistré à New York le 13 février 1933. Et lors de la même séance, le Big Band de Faza enregistre Cavernisme. C'est ce morceau qui est arrangé par Jimmy Mundy. Thank you. Ils sont beaux, hein?
Remarquables.
Ils sont remarquables. Voilà. On avait un très très bon pianiste. Je pense qu'on le reconnaît parfaitement, hein, avec les quelques morceaux qu'on a entendus, quelques solos. On reconnaît le style d'Orline. Il était aussi bien entouré. Il avait des gens comme Homer Siméon, qu'on a à nouveau entendu à l'alto. L'autre très grand trompettiste solo qui était Walter Fuller et qui jouait la trompette bouchée dans le deuxième morceau. Et on avait un des premiers grands violonistes de jazz avec Stuff Smith. Il s'agit de Darnell Howard. Et alors, j'avais dit que un de ses saxophonistes, Jimmy Mundy, était l'arrangeur du deuxième titre, mais le premier titre était aussi arrangé par quelqu'un de son orchestre, un autre saxophoniste d'ailleurs, qui était Cecil Irwin, qui aura un destin un peu tragique, mais pour le savoir, il faut continuer à écouter l'émission. On aura une suite, hélas, pour Cecil Irwin. Nous allons rester en 1933, il y a une autre très belle interprétation, il y en a d'autres, mais celle que j'ai choisie, elle a un swing incisif, c'est de la musique ultra dansante. Alors, je préviens tout le monde, pour ceux qui écoutent l'émission le jeudi soir, pas de problème, ils sortent du fauteuil, ils se mettent à danser, facile.
Oui.
Je pense à ceux qui l'écoutent le dimanche matin. Des fois, ces messieurs et ces dames, les deux, font un peu la cuisine.
En général, en
voilà, donc on s'éloigne un peu du fourneau, et puis on pousse un peu la table s'il y a une au milieu de la cuisine, et on peut se mettre à danser, ça c'est automatique,
attention,
on ne pourra pas le faire autrement.
Que des casseroles.
Ben oui, on va, ben voilà. Mais on le prend à l'aise, et pourquoi je dis ça? Ça s'intitule « Take it easy », enregistré à Chicago le 27 octobre 1933. Let's dance! Thank you. l'alto, c'est bien sûr notre ami Omer Siméon. À la clarinette, c'était le violoniste de tout à l'heure qui jouait plus souvent de la clarinette, Daniel Howard. On a pu remarquer aussi Walter Fuller à la trompette. Mais le contrebassiste qui faisait du slapping bass, c'était Quinn Wilson, évidemment.
Bien sûr, mais bien
sûr. Voilà. Et alors, Quinn Wilson, c'est aussi un arrangeur et on va l'entendre à la fois comme contrebassiste et comme arrangeur dans le morceau suivant qui swing autant que le précédent. Et on a un sensationnel solo d'Erlines au piano. On va encore entendre Omer Siméon, Walter Fuller. C'est même pas la peine que je précise. On les a repérés maintenant, tous ces gens-là. Donc on écoute That's a Plenty, enregistré à Chicago le 12 septembre 1934. Très beau morceau qui swingait méchamment, comme on dit, méchamment. Donc très bien.
Il swingait grave.
Il swingait grave, oui, comme disent les jeunes. Voilà. On va rajeunir notre langage à Swing FM. Eh bien, Erlines a fait appel à de très bons arrangeurs, on l'a constaté, qui ne va jamais chercher bien loin puisqu'il les prend au sein de sa formation. Il y en a un qu'on a déjà entendu comme arrangeur, c'est le saxophoniste Jimmy Mundy. Donc je voudrais que l'on entende un nouvel exemple d'un arrangement de Jimmy Mundy, exprès fait pour le big band de Papa, de Faza. Et c'est une des compositions de Jimmy Mundy et pas d'Erlines. Et ça s'intitule Fate's Babes. On est toujours à Chicago et on est toujours le 12 septembre 1934. We'll be right back. qu'est-ce que tu remarquais que
Oui,
tu
non, mais j'ai dit Jimmy Mundy a arrangé pour Béziers, ouais, ça ouais. se sent, parce qu'à la fin, les riffs, c'était voilà. typiquement béziens. Hein.
Tout à fait, voilà, hein, arrangement avec des riffs, hein, ces petites phrases qui se répètent sans arrêt. On a bien sûr reconnu Homer Simeon à l'alto. Alors, le trompettiste, on a bien compris que ce n'était pas George Dixon. Il jouait dans la section de trompette, mais pas en solo. On aurait pu penser que ce soit Louis Armstrong, mais non, ce n'était pas lui. Louis Armstrong, il jouait de son côté avec l'orchestre de Louis Russell à l'époque. Mais c'est quelqu'un qui était inspiré tout de même d'Armstrong quand il monte à l'aigu. Ah, oui. Et c'est évidemment Walter Fuller. C'est aussi l'époque où Armstrong...
Grand trompette.
Voilà, Walter Fuller est un très, très grand trompette. Il avait pour admiration, enfin comme admirateur, il est admirateur du moins de Louis Armstrong. Et Armstrong, à l'époque, jouait beaucoup à l'aigu. C'est le moment où il forçait beaucoup sur ses lèvres, même un peu trop. Il souffrait des lèvres tellement il montait haut. Et Walter Fuller, il faisait pareil. Hein. Il faisait comme son mentor, évidemment. Et puis, on avait toujours un Earline fantastique au piano. Mais ça, on le sait, c'est l'élément de base de l'émission d'aujourd'hui. On est donc dans les meilleures années du grand orchestre de Father Heinz. Et on va continuer en avançant doucement. On était le 12 septembre. On va regarder le lendemain. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Toujours chez Decca à Chicago. Ils ont enregistré deux morceaux qu'on va écouter. Le premier est un arrangement de Jimmy Mundy, à nouveau, c'est Copenhagen. Et le deuxième, c'est un arrangement de Quain Wilson, le fameux contrebassiste, et ça s'intitule Wolverine Blues. We'll be right back. je pense que les solos de ténor dans les deux morceaux, c'est Cecil Irwin. Je suis à peu près sûr de moi. À peu près, hein, je dis bien. Alors, pour les trompettistes, alors ça, c'était facile, notamment dans le deuxième morceau, parce que George Dixon introduit le thème, c'est lui. Et dans le deuxième solo de trompette, dans ce morceau-là, mais dans le premier aussi, on l'a entendu, c'est Walter Fuller. Bon, et puis, on a entendu un jeune tromboniste qui est promis un grand avenir. Il va jouer plus tard avec Louis Armstrong. C'est Tommy Young.
Avec Lunceford aussi.
Et avec Lunceford avant, parmi les grands orchestres. Mmh. Dès qu'il quitte Orleans, il part
chez Lunceford. Voilà. Et après, avec Louis.
Et après, il sera avec Louis en petite formation cette fois-ci. Ben là, on l'a entendu au début de sa carrière. On va continuer chez Decca, à Chicago toujours. On change d'année, on est le 12 février 1935 et on va écouter un morceau qui est mené à un train d'enfer. Et ça, c'est le train d'enfer qu'impose Orleans au piano dès l'introduction. Alors, il faut bien penser que tous ces orchestres de jazz jouaient pour la danse, pour des danseurs exigeants. Donc, ils avaient intérêt à bien jouer, ça devait swinguer. Il y avait interaction, de toute façon. Mieux les danseurs dansaient, mieux l'orchestre jouait. Mieux l'orchestre jouait, mieux les danseurs dansaient. Il y avait du swing des deux côtés, sur l'estrade et dans la salle, évidemment, notamment aux grandes terrasses de Chicago, mais c'était vrai pour tous les dancing de Chicago, de New York ou d'ailleurs. On écoute Bubbling Over, donc enregistré à Chicago le 12 février 1935. Profiter du chef et d'une section rythmique fantastique. D'ailleurs, je lui ai indiqué quel est le batteur. C'était Wallace Bishop, donc un très très grand batteur, et il tient sa place ici. Pour les trompettistes, je précise même plus maintenant que c'est George Dixon au départ qui présente le thème. Et puis qu'après, on a Walter Fuller dans le milieu du morceau qui joue en utilisant l'aigu et qui joue en force, mais en swing, évidemment. Le tromboniste, je ne le présente plus, c'est notre ami Tommy Young. Et puis, on a profité eh bien, des joueurs de hanche, de saxo et de clarinette. Et on a eu Darnell Ward et on a eu Homer Siméon, chacun prenant un court solo, un demi-chorus de clarinette. On va poursuivre et on va prendre un tempo promenade, un peu façon Jimmy Lunceford. On parlait de Jimmy Lunceford avec Dominique à l'instant. Eh bien, on va voir ce petit tempo promenade. On a l'impression de se balader hein, en dansant. Ou de danser en se baladant, c'est comme on veut. Et ça met en valeur à nouveau le drumming de Wallace Bishop. Ça s'intitule Blue Drag. On est à Chicago et on est le 12 février 1935. Donc c'est la même séance que tout à l'heure. Soliste, c'est toujours facile. Earnlines, bon, ça pose pas de problème. Milo, piano, il est tout seul et puis de toute façon, on reconnaît son style. Pour le trompettiste, alors on sait qu'il y a un dur et un doux là-dedans. Donc le doux, c'est George Dixon, c'est lui qui jouait. Le dur, c'est Fuller comme furieux, c'est lui le dur. C'est pas lui qui joue en solo. Là, on reconnaît bien. Et à l'alto, ben, c'est le clarinettiste Homer Siméon, justement, voilà, qu'on connaît comme clarinettiste et moins comme alto. Mais chez Earlines, il jouait beaucoup des solos d'alto, en fait. Earlines, on s'en rend compte, est un bon chef d'orchestre, un bon pianiste, un bon compositeur, prolixe et brillant. On va écouter un nouveau titre qui est une de ses compositions. Une sorte de manifeste, on va dire. C'est le fameux Pianology enregistré, tiens, chez Vocalion. Il a quitté Decca cette fois-ci. Et il est toujours, par contre, à Chicago. Parce que Earlines, en fait, il était à Chicago alors qu'ils étaient tous à New York. Hein. Il était revenu hein, de New York, il est pas resté. La Big Apple, il aimait pas. Il préférait la Cité du Vent, lui. Donc, il est à Chicago le 10 février 1937. Musique je vais en profiter pour donner la section rythmique au complet, à part Orlinx évidemment. Le guitariste, c'est Lawrence Dixon, le frère de George Dixon. À la contrebasse, c'est bien sûr Quain Wilson. Et à la batterie, Wallace Bishop. Au ténor, il y a un nouveau venu avec une sonorité avec assez peu de vibrato. Il s'agit de Bud Johnson. Pourquoi est-ce que Bud Johnson a été embauché dans l'orchestre de Fazza Hine, l'orchestre de papa? Tout simplement, il remplace le pauvre Cecil Irwin qui s'est tué dans un accident d'automobile. Ça arrivait déjà à l'époque. Ce n'est pas le seul, mais il a été tué dans un accident d'automobile à la fin de l'année 1935. Eh bien, on va lui rendre hommage à Cecil Irwin. On va écouter un de ses arrangements parce que Fazza Hine a gardé tous les arrangements de Cecil Irwin. Et on va écouter, en hommage à cet arrangeur et ce saxophoniste, un morceau intitulé Rhythm Sunday. Et c'est enregistré à Chicago le 10 février 1937. Donc c'est la même session que précédemment. Rhythm Sunday. Encore à Trummy Young au trombone dans un solo fameux. Je signale et je précise que le titre du morceau, c'est bien Rhythm Sunday, Sunday, D-A-E en français, c'est-à-dire une glace aux fruits et à la crème chantilly. C'est pas Sunday, c'est une glace. Ça donne faim, Martine. On va se chercher une petite glace.
Une petite glace.
Allez, on va y aller. Mais avant, on va faire de beaux rêves, tu vas voir. Parce que nous passons à l'année 1938 et on va se rendre compte que le grand orchestre de papa, de Fazza Hine, est toujours fameux pour la danse, qui pratique un swing magnifique et avec un naturel absolu. Un tempo de rêve, forcément. Ça s'intitule Good Night, Sweet Dreams, Good Night, Chicago, le 7 mars 1938. Thank you. trompette, George Dixon, évidemment, on reconnaît. Et au ténor, on reconnaît aussi, parce que c'est le nouveau saxophone ténor qui joue avec peu de vibrato, mais ce n'est pas du tout de Lester Young tout de même. C'est plus Hawkins comme inspiration, mais assez peu de vibrato. C'est Bud Johnson. Et on va aller d'un autre dans un lieu précis que j'ai évoqué à peine tout à l'heure. C'est là où se déroulent les exploits du Big Band Airlines. C'est le Grand Terrace Ballroom de Chicago, où à Chicago, dans ce grande salle de spectacle, on pouvait avoir une clientèle noire et une clientèle blanche. C'était mêlé, alors qu'au Cotton Club de New York, qui était à Harlem, Dominique, n'est-ce pas, il n'y avait que des blancs dans la salle et que des noirs sur scène.
C'est incroyable.
Voilà, et on pouvait pas, il n'y avait pas de mélange.
L'un descendait pas, l'autre ne montait pas.
On descendait, voilà, les musiciens, les danseuses n'allaient pas se balader dans la salle. Donc c'était la ségrégation intégrale. Chicago, c'était un petit peu différent, même s'il y avait aussi des quartiers ségrégés, le South Side, le West Side qui était très noir, moins le centre, moins le loop de Chicago. Mais tout de même, le Grand Terrace était mixte. À propos du Grand Terrace aussi, les intérêts de ce grand dancing étaient contrôlés par un petit gars du coin, je ne sais pas si on le connaît bien, il s'appelait Al Capone. Entre parenthèses, les jazzmen, ils étaient tous plus ou moins contrôlés, ce qui explique d'ailleurs que Louis Armstrong s'était barré à l'époque, je dis barré pour prendre le ton qu'il faut, en Angleterre et en France, parce qu'il voulait s'échapper un petit peu. Bon, il est revenu un peu plus tard.
Le Cotton Club, c'est pareil, ils étaient contrôlés
oui, aussi, oui. Par la mafia, oui. Bon, c'était l'époque de la prohibition, mais une époque un peu bizarre. En tout cas, nous, on revient au jazz et au swing. On va écouter deux morceaux consacrés au Grand Terrace de Chicago. Le premier, ça s'appelle G.T. Stomp, G.T. GT, Grand Terrace. Enregistré, tiens, un disque ben, pour noir, c'est le Bluebird. C'est les disques Victor pour les Noirs, c'est les Bluebirds. Mais on a New York, alors qu'on parle de Chicago, le 12 juillet 1939. Et lors de la même séance, eh bien, Airlines va enregistrer le Grand Terrace Shuffle. On écoute ces deux titres. Thank you. Alors, Dominique ?
Écoute Alain, la coda de J.T. Stomp, c'est une des plus belles codas d'un grand orchestre dans l'histoire du jazz.
Oui, oui.
Moi, je la trouve formidable.
Fantastique. La deuxième est pas mal, mais effectivement.
Et la deuxième est pas mal, mais oui. La première, c'est
très,
un éblouissement.
Très original, voilà. C'est un sacré orchestre que l'orchestre de papa. On peut pas dire autre chose.
Ah oui.
Je signale aussi que Faza, papa, il avait embauché un nouveau batteur et c'était Alvin Burroughs. Et c'est lui qui pousse tous les musiciens et tous les solistes, dont certains étaient des nouveaux. À la trompette bouchée, le premier qu'on entend, c'est Ed Sims et ensuite c'est Walter Fuller, mais qui joue ouvert. Et le trombone, c'est John Strimline Ewing, puisque Trummy Young, il est parti chez Lynn Sofford à l'époque. Le ténor, on le reconnaît maintenant, c'est Bud Johnson. Homer Simeon avec la clarinette, évidemment. Earlines au piano, mais ça, c'est encore plus facile à trouver. On est à New York, mais Earlines ne reste jamais très longtemps à New York. Il revient à Chicago. Il enregistre toujours pour la même marque Bluebird. On est le 6 octobre 1930 et il va nous jouer avec son big band. Papa nous joue Riff Medley. C'est ce qu'on appelle un thème riff, le thème qui se répète sans arrêt. Il y avait de sacrés musiciens qu'on a reconnus, Bud Johnson au ténor, Walter Fuller à la trompette. Et au saxo alto, c'était le trompettiste George Dixon. Et je ne dis pas de bêtises, Martine, le trompettiste George Dixon jouait aussi du saxo alto. Je ne disais pas de bêtises. Il n'y a pas que Benny Carter qui joue du saxo et de la trompette, ou que notre ami Bosquero qui joue aussi bien des hanches, oui, de la clarinette, du saxo et de la trompette. Mais George Dixon, c'était pareil. Donc, il prenait des solos d'alto. La preuve, on vient de l'entendre. On reste dans la même séance du 6 octobre 1939 et on va retrouver le tempo typique de la grande formation d'Earlines. Les solistes, ben, vous les connaissez tous maintenant. Je vais tout de même les préciser. Au trombone, Strimline Ewing, John Ewing. Au piano, bon, Erlang, bon, ça évidemment, c'est un peu trop facile. À la trompette, c'est aussi facile. C'est Walter Fuller, on ne se trompe pas. Et on va entendre Lightly and Politely. À l'instant, on écoute. Bien, pour finir, on va écouter un titre qu'Erlang avait déjà gravé en 1932, mais qu'il a repris en 1940. Bon, il enregistrait souvent des titres plusieurs fois, bon, c'est pas le seul à faire ça, évidemment. La version de 1940 du titre suivant est meilleure, selon moi, c'est pour ça que je la place maintenant. Et en plus, ce morceau va devenir l'indicatif de l'orchestre d'Erlang. Ça s'intitule Deep Forest et c'est enregistré chez Bluebird à Chicago le 13 février 1940.
Thank you.
Eh bien, l'arrangement était dû au saxophoniste ténor Robert Bob Crowder, qu'on entend jouer au tout début. On a entendu d'autres solistes, George Dixon à la trompette, Homer Simeon à la clarinette, Bud Johnson au ténor. Et puis le gars qui a interpellé Fassheim au début, qui a dit « Fassheim, Fassheim », c'était George Dixon. Donc non seulement il joue de la trompette, il joue du saxo alto, et en plus il parle ce garçon. Il était présent dans l'orchestre. Eh bien, nous avons fini d'écouter les orchestres et plutôt les morceaux de l'orchestre de papa, de Fassheim. Je ne sais pas si on a remarqué, mais comme les gens vont, comme d'habitude, podcaster l'émission et l'enregistrer
en boucle.
C'est
une habitude qu'ils
voilà.
ont prise.
Ils vont se rendre compte que tous ces enregistrements sont compris entre 2 et 3 minutes. Il n'y en a pas un qui dépasse les 3 minutes. Et pourtant, on a une musique qui est belle, qui est pleine. Il ne manque rien. Ça nous comble. Ça nous transporte. C'est le génie d'Orlines qui joue juste ce qu'il faut pour être suffisamment éloquent. Voilà, c'est du Orlines, tout simplement. Et le Big Band d'Orlines va poursuivre sa carrière au-delà de 1940. Moi, j'arrête l'émission en 1940. Il va être encore très brillant. Il vaut encore le coup d'être écouté, évidemment. Mais de mon point de vue, sa meilleure période est tout de même ces années 30. Hein, entre 32, ces 9 années que je viens de tracer, 32-40, grâce à un chef qui faisait partie des tout meilleurs pianiste de jazz tout de même, des meilleurs chefs d'orchestre grâce à de très bons solistes, à des arrangeurs à l'avenant. En plus, les arrangeurs étaient pris sur place, donc ça, tout ça concordait très très bien. On avait un orchestre qui était d'une grande cohésion, sans doute parce que tout est produit à l'interne. C'était de la formation locale. On se nourrit localement. C'est très à la mode aujourd'hui, mais Orlines le pratiquait déjà. C'était de l'artisanat de luxe et ça n'a pas pris une ride, je l'affirme. Voilà.
C'est Swing Time 2021. Et l'émission que vous venez d'entendre avait été préparée et présentée par Alain Charbonnier. Des émissions qui ne prennent pas une ride.
Pas du tout. Et en plus, c'était dédié au président de Swing FM, Alain Réjou. Voilà. Ça prend de la valeur.
Hein. Bravo, Alain. Le père.
Le père. Voilà.
Le père des pianistes de jazz. C'est pour ça qu'on
Orlines.
A fait faveur.
Oui.
Absolument.
Absolument. Voilà.
On reste sur ces mots. On embrasse tout le monde.
On embrasse tout le monde.
Et on se dit à bientôt.
Et on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Pour
à
Swing
tous.
Time.
À
bye bye.